enlever le masque. Donc, c'est le premier point que je voulais aborder ce soir. Le second point, est-ce qu'il y a des nouveaux participants ce soir, des gens qui viennent pour la première fois? Oui, d'accord. Donc, je rappelle du coup la manière par laquelle fonctionnent les cafés philo. Donc, dans un premier temps, vous pouvez tous proposer des sujets. Et puis, dans un second temps, on passe au vote. Et le sujet qui a eu le plus de voix au vote sera le sujet qui sera traité durant la séance. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire les cafés philo au lycée Jean Zay. Le prochain café philo va se déplacer, comme c'est dans l'air du temps. Hein, on va en profiter aussi. Nous allons aussi migrer vers la source. Et donc, nous allons aller à la Maison des Associations la prochaine fois, donc le 5 avril. Et le prochain café de philosophie sera donc animé par Nicolas, donc à la Maison des Associations de la Source, le 5 avril, mais toujours à 19h. Voilà. Ensuite, le 22 mars, c'est-à-dire dans 15 jours, Philomania et moi-même, nous vous invitons de nouveau ici, mais on sera dans la grande salle, donc juste à côté, pour une conférence là aussi portant sur une thématique qui est au cœur de l'actualité, à savoir celle des migrations. Plus exactement, la conférence portera sur le concept d'hospitalité. Voilà, savons-nous encore accueillir l'étranger ou les étrangers? Et on pourrait rajouter aussi les étrangères, hein, hommes et femmes. Hein, comment accueillons-nous et comment penser à l'heure d'aujourd'hui l'hospitalité? Donc ça aura lieu le mardi dans 15 jours, donc le 22 mars, ici même, au lycée Jean Zay, dans la grande salle. Voilà pour toutes les informations que nous avions à vous communiquer. J'en ai oublié une, Marie-France?
C'est moi qui voudrais rajouter un point.
Oui, comme la dernière fois, on va enregistrer ce café philo de façon à permettre à ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'ils sont fragiles, je pense aux immunodéprimés, de pouvoir récupérer l'enregistrement et donc assister en différé à notre café philo. Je n'ai rien trouvé sur un droit au son qui ressemblerait à ce qui existe qui concerne le droit à l'image. Mais avant de commencer, je voulais savoir si par hasard il y avait quelqu'un qui serait opposé à cet enregistrement dans la salle. Pas de problème. Merci à tous.
Donc voilà, du coup, nous pouvons commencer. Est-ce que vous avez des propositions de sujets pour le café philo de ce soir? Il y a des sujets qui vous tiennent à cœur, que vous souhaiteriez traiter, voire discuter. Oui. Alors peut-être nous allons faire passer le micro. C'est vrai que si on parle suffisamment fort, on peut s'entendre, mais pour l'enregistrement, il est mieux juste de s'exprimer au travers d'un micro. Ici, Marie-France. Là. C'est voilà, monsieur.
Pardon, on m'entend, oui, voilà. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors j'ai un petit papier parce qu'en fait, je me suis posé beaucoup de questions parce que j'ai lu quelques lignes qui sont issues des carnets de philo de France Culture. Et ça m'a interpellé. Alors, le titre, c'est Une troisième guerre mondiale est-elle possible? Alors, ma question, c'est pas ça, mais c'est le mot possible. Parce qu'en fait, tout le sujet, c'est le possible en philosophie. Qu'est-ce qu'on entend par possible? Et j'ai lu, alors il n'y a pas beaucoup, il y a très peu de choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes, donc on se demande, mais l'avenir, ça va être fait de quoi? Il y a eu le problème de la pandémie. On s'est dit, qu'est-ce qui est possible? Possible pandémie. Là, il y a une tension aux portes de l'Europe. Et on se dit, mais qu'est-ce qui est possible? Et moi, je me pose maintenant plein de questions après avoir lu ça sur la notion de possible. Et j'ai appris une chose qui m'épate. Au début, je me suis dit, il y a une erreur dans le texte, parce qu'il est marqué, le possible succède à sa réalisation. C'est pas possible.
Pardon. C'est le cas de le dire.
C'est vraiment drôle. Ouais. Pour moi, quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui, dans mon esprit, qui avait déjà eu lieu et qui aura encore lieu, peut-être sous une forme différente, mais qu'on connaît un peu déjà. Non, apparemment non. Et puis du coup, ça pose énormément de questions. Après, il y a ceux qui... dans tous ces événements pleins d'incertitudes, il y a les pessimistes qui prévoient le pire, mais on ne les croit pas. Il y a les optimistes qui disent que tout va s'arranger. Enfin, ça va s'arranger, on ne les croit pas non plus. Donc, qu'est-ce qui est possible? Voilà, la notion de possible en philosophie. Il cite Bergson. Et Bergson explique que le possible succède. Pardon, alors comment c'est dit? Il y a les choses suivantes. Les choses ont changé. On a appris avec lui que le possible ne précédait pas le réel, mais lui succédait.
Il lui succédait, oui.
J'ai beaucoup de mal à me représenter ça. J'ai lu, relu, il n'y a pas beaucoup de lignes.
Ça demande, à être pensé, quoi. Voilà. Ouais, c'est un beau sujet. Alors, peut-être, le possible en philosophie. Après tout, on peut le formuler comme ça. Hein. Voilà. Hein. Qu'est-ce que le possible? Ouais. Qu'est-ce que le possible? Comment comprendre cette notion de possible? Mais c'est pas mal de le lier peut-être aux événements. Ça concrétise un peu la chose. C'est-à-dire, une troisième guerre mondiale est-elle possible, quoi? Et donc, du coup, comment entendre ce possible dans ce rapport à l'événement?
Mon sujet, la vie doit-elle obligatoirement être synonyme de violence?
La vie doit-elle obligatoirement être synonyme de violence? Une vie sans violence est-elle possible? Quelqu'un d'autre voudrait proposer un sujet? Marie-France, est-ce que vous voulez rajouter un ou deux sujets de ceux qu'on avait en réserve? On a des réserves d'anciens sujets qui avaient presque été choisis, mais qui ne le sont pas. Comme ça, on peut encore les soumettre à votre vote. Oui.
L'identité personnelle est-elle obligatoirement nationale?
D'accord. L'identité personnelle est-elle obligatoirement nationale? Ok. Marie-France, peut-être un ou deux sujets?
Alors, je vous donne les deux qui avaient les meilleurs scores. D'une part, on avait « Peut-on disposer librement de son corps ?» et « Peut-on être heureux sans être égoïste ?»
D'accord.
Voilà.
Très bien. Ben, est-ce que ça vous va? Ça nous donne 5 sujets, si mes comptes sont bons. 5 sujets parmi lesquels donc nous allons pouvoir choisir. Donc, je propose qu'on les prenne peut-être dans l'ordre. Le premier, donc, qu'est-ce que le possible? Qu'est-ce que le possible? Oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18. Ensuite, Marie-France, on avait...
Alors, la vie est-elle obligatoirement synonyme de violence ?
La vie est-elle obligatoirement synonyme de violence ? Je tiens à spécifier que quand on a voté une fois, on peut voter deux, trois fois. Hein ? Donc voilà. Donc la vie est-elle obligatoirement synonyme de violence ? Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept. Huit, je pense. Huit. Huit, Marie-France. Ensuite, on avait...
L'identité personnelle est-elle obligatoirement nationale ?
L'identité personnelle est-elle obligatoirement nationale ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Oui. Et dans les sujets
qui sont un de second dans le précédent, peut-on disposer librement de son corps ?
Peut-on disposer librement de son corps ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Et peut-on être heureux sans être égoïste ?
Peut-on être heureux sans être égoïste ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18.
Alors, on doit faire un deuxième tour.
Il y a, voilà.
Entre le possible. Et peut-on être heureux sans être égoïste ? Mais là, on ne peut plus voter qu'une seule fois.
Ah, d'accord. Donc là, il faut faire son choix. Donc, qu'est-ce que le possible ? Et peut-on être heureux sans être égoïste ? Donc, qu'est-ce que le possible ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et peut-on être heureux sans être égoïste ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Un point, non ?
C'est serré.
C'est serré, mais... Donc, bonheur et puis égoïsme. Peut-on être heureux sans être égoïste ? Marie-France, dites-moi si je me trompe, mais c'est un des sujets que vous avez proposé.
Oui, c'est un sujet qui était arrivé second.
C'est ça, oui.
Quand même 35 voix.
35 voix. Donc, du coup, on n'a pas la personne qui a posé le sujet. La personne. Non.
Je ne pense pas qu'elle. Enfin, il faudrait un coup de chance.
Oui, mais après tout, l'a-t-on cette chance ? Non. Donc, peut-on être heureux sans être égoïste ? Est-ce que quelqu'un veut commencer la réflexion ? Quelqu'un à qui le sujet parle ? J'ai presque envie de dire pourquoi avez-vous choisi ce sujet ? Ah, voilà. Oui ? Oui, peut-être qu'on peut passer un micro. Voilà. Peut-on être heureux sans être égoïste ? Oui.
Oui, je disais, il faut peut-être commencer par définir pour le sujet qu'est-ce qu'on entend ce soir être heureux dans le sujet, sinon ça risque de partir dans tous les sens.
Oui, oui. Et alors, vous pouvez en donner une première définition de ce heureux, ce bonheur ?
Je ne sais pas, de mon point de vue, un accomplissement de soi.
Et du coup, si c'est un accomplissement de soi, la question serait peut-être, est-ce que l'accomplissement de soi se réalise seul ou est-ce qu'on a besoin des autres, par exemple, déjà pour pouvoir être heureux, effectivement. Ouais. Donc, ouais. Alors, moi, j'ai bien envie peut-être déjà de jeter un pavé dans la mare, quoi. Si on prend la définition que Hobbes nous donne de l'homme, à savoir que l'homme est un loup pour l'homme, il semblerait bien que le bonheur, par définition, se pense peut-être dans la solitude, et que, ou en tout cas dans un statut peut-être solitaire, et que dès qu'on rentre en relation avec les autres, le bonheur est difficile à atteindre. Ça se penserait en termes de compromis, le fait de devoir s'adapter les uns aux autres, ce qui ne va pas nécessairement de soi. Le fait qu'on est contraint de vivre avec nos semblables, mais ce n'est peut-être pas la raison pour laquelle on supporterait nos semblables. Voilà. Oui,
oui. Alors, personnellement, j'aurais tendance à renverser le prémisse. C'est-à-dire que si on se donne comme finalité le partage et la relation avec l'autre, le bonheur est dans ce partage procuré par cette relation. Donc on est très loin de l'égoïsme.
Et là, on serait très loin de l'égoïsme. Mais du coup, est-ce qu'on serait aussi pas très loin de l'accomplissement de soi ? C'est-à-dire, est-ce que dans le partage, il n'y aurait pas parfois la nécessité de se sacrifier soi-même au bien de la communauté ?
Je n'envisage pas du tout comme ça.
Mm-hmm.
Non, parce que ça voudrait dire que la communauté s'impose à moi. Et je ne suis plus dans cette démarche personnelle où moi, j'entre en relation et je vais partager avec l'autre.
Oui, ça voudrait dire que je pourrais me penser par moi-même. Voilà. Mon identité personnelle, elle serait close sur elle-même. Voilà. J'aurais pas besoin, justement, de me penser dans un rapport aux autres. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est peut-être à remettre en cause, justement. Hein. Ouais. La logique, peut-être, de l'individualisme poserait problème. Voilà. Oui. Madame ?
Pourquoi pas ? Mais dans le sujet, il me semble que peut-on être heureux sans être égoïste, c'est ça ? Il est bien question de la personne individuelle, sans parler d'individualisme, peut-être quand même d'individualité, c'est-à-dire de ressenti du bonheur, du fait d'être heureux, chacun pour soi-même, sachant qu'on n'est pas tous heureux de la même façon, pour les mêmes choses. Le sujet de la communauté, c'est déjà quand on est socialisé. Je pense que c'est pas premier dans le sujet, même si ça peut être un élément. Il me semble que le sujet tel qu'il est posé, il est posé de manière individuelle.
Oui, madame.
Moi, il y a quelque chose qui me vient comme ça, c'est qu'on peut peut-être être heureux sans être égoïste quand la couverture est très très grande, en fait. C'est-à-dire que quand la peau de chagrin rétrécit et qu'en fait j'ai plus assez pour me couvrir, et du coup si on a une grande couverture, on va tous pouvoir avoir très très chaud parce qu'elle est immense.
On peut partager,
mais à un moment donné, si la couverture elle rétrécit, je pense qu'à un moment je vais avoir tendance à me protéger, ou protéger mon ami, ou protéger mon enfant ou mon chat.
C'est
bien chaud, et puis quelque part, bah, malheureusement, et très humainement, et même l'animal ferait la même chose, je pense. Voilà, il y a une notion.
Chacun pour soi et Dieu pour tous.
Il y a une notion, être altruiste, c'est assez simple quand il y a beaucoup de choses à partager. Après, quand il y en a moins, je pense que c'est un peu plus difficile, en fait.
Mais ce qui est bien, je crois que c'est le fait de faire intervenir le terme altruisme. C'est-à-dire, il me semble que dans le sujet « Peut-on être heureux sans être égoïste ?», il y a malgré tout, c'est un sujet à connotation morale. C'est-à-dire, ce bonheur égoïste serait quelque chose, certes, qui pourrait exister, mais malgré tout qu'on jugerait mal. C'est-à-dire, l'égoïsme, c'est ce qu'on condamne, l'altruisme, c'est ce que l'on valorise. Et du coup, si la finalité de l'humanité, c'est peut-être la recherche du bonheur, penser ce bonheur seul et peut-être contre les autres, ou peut-être par exploitation des autres, ou indifférence à la souffrance des autres, il y a quelque chose qui choque, du coup, notre conscience morale. Donc, du coup, voilà, s'il y a peut-être une réalité du fait que, effectivement, la couverture étant pas suffisamment large pour tout le monde, eh ben, à un moment donné, il faut bien penser à soi pour assurer, j'ai presque envie de dire, peut-être déjà sa propre survie, et puis, du coup, son bonheur, qu'on pourrait déjà entendre comme la satisfaction des besoins fondamentaux, quoi. Donc effectivement, il y aurait peut-être là une réalité tangible, qu'on touche du doigt, mais qui en même temps nous met mal à l'aise dans notre conscience morale, quoi. Donc du coup, pour vivre heureux, vivons cachés, au sens où justement ce qu'on cacherait, ça serait cette part d'égoïsme qui fait qu'on en vient à jouir de notre vie seule, c'est-à-dire... Voilà, malgré la souffrance du monde, malgré le fait que d'autres soient exclus et meurent actuellement, quoi, par exemple. Et c'est une question. Peut-on être heureux, de manière égoïste? Peut-on jouir du bonheur de manière égoïste? Voilà. Question morale.
Moi, je pensais à l'influence sur le jeune individu de l'éducation, du système éducatif, de l'éducation des parents, d'une éducation, de la société en général, sur ce devenir-là, sur ses prédispositions futures. Mm. Voilà, c'est ce que je voulais juste pointer, quoi, sur une forme... Enfin, on peut être formé... à l'altruisme ou à l'égoïsme selon le cheminement que l'on a parcouru et qu'on nous a fait parcourir plutôt.
Mmh. Mais alors du coup, ma question serait, est-ce qu'on vit dans une société qui favoriserait l'égoïsme ou est-ce qu'on vit dans une société qui favoriserait l'altruisme?
J'aurais tendance à penser à l'égoïsme, mais c'est un regard tout personnel.
Mmh. D'accord.
Peut-être un peu rempli d'espoir lorsque je regarde les jeux. J'ai bien l'impression quand même que plus ça va, on valorise beaucoup les jeux de coopération. Mm. Les jeux qui se vendent, les escape games, là, où je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Mais en fait, on résout l'énigme à plusieurs. Mm. Je pense qu'avant, il y avait beaucoup des jeux où on était l'un contre l'autre. Et il y avait un gagnant, un perdant. J'ai l'impression que c'est moins clair.
Oui. Mm.
Et puis aussi, je pense aussi que... Alors, je ne sais pas comment le relier, mais par rapport aux animaux, on a longtemps cru qu'en fait, que c'était le plus fort qui allait s'en sortir et qu'à un moment donné, justement, il cherchait... Mais en fait, il y a beaucoup de coopération dans... Et ça, je trouve que c'est plus ça va, plus ça monte, quoi, de montrer qu'en fait les animaux coopèrent, voire même les plantes.
Mmh. En tout cas, ça communique.
Ouais.
Ouais. Je pense aux plantes, là, tous les derniers travaux sur les arbres, on s'aperçoit qu'effectivement, un arbre n'est pas isolé, il communique avec ses semblables.
Même entre les arbres et les animaux, etc.
Ouais. Mmh, mmh. Mmh. Ce qui veut dire qu'il y a du lien, en fait. Il y a du lien.
Et de l'aide.
Et de l'aide, ouais. En même temps, ce que je me dis aussi, c'est que dans la morale sociale, on nous apprend quand même, il me semble, à respecter notre semblable, à venir en aide. Enfin, on valorise aussi ce qu'il en est de la solidarité. Donc, il semblerait bien qu'il y ait une vraie tension dans notre société entre égoïsme et altruisme. L'égoïsme, alors encore une fois, je pense qu'il est connoté, mais il vient quand même du terme égo, le moi. Et dans le moi, il y a cette idée aussi de protection de l'individu. C'est-à-dire, l'égoïsme provient aussi du fait que les individus se doivent de se respecter les uns les autres. Enfin, je dirais assez simplement, en reprenant l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Donc du coup, il y a, voilà, il y a une frontière à ne pas franchir qui fait que l'individu se doit d'être protégé dans son intégrité physique et psychique. Voilà, le fameux « noli me tangere », ne me touche pas. Enfin, voilà, qui est, il me semble, la base des droits fondamentaux, des libertés fondamentales qui constituent les droits propres aux individus que nous sommes et qui nous protègent en tant qu'individus. Et dans ce sens-là, c'est vrai que du coup, le bonheur, c'est déjà de ne pas être asservi, de ne pas être sous la domination d'un autre et de pouvoir décider pour moi de ce qu'il en est de ma vie. En ce sens-là, étant maître de mes décisions, étant maître de mes choix dans ce dans quoi je peux trouver mon bonheur. Et là, on revient sur la difficulté de définir qu'est-ce que c'est qu'être heureux. Parce que, effectivement, chacun trouve son bonheur là où il a le désir de le trouver, ce qui fait que ce qui peut procurer mon bonheur pour moi ou me rendre heureuse n'est pas nécessairement ce qui va rendre quelqu'un d'autre heureux. Donc, il faut bien que chacun et la liberté de pouvoir se réaliser ou s'accomplir dans les inclinations, dans les goûts qui sont les siens. Donc du coup, effectivement, il semblerait qu'à la base, il y ait un lien entre cet égoïsme du coup nécessaire et cette réalisation du bonheur. Et en même temps, la morale, elle nous dit que le rapport que j'ai à mon semblable, s'il n'est pas à se penser dans un rapport de domination, il est à penser en termes de coopération, de mutualisation, d'entraide. Et donc, il y a bien quelque chose de l'ordre de l'altruisme qui doit jouer, parce que peut-être les individus que nous sommes ne peuvent pas vivre seuls. Je pense qu'une des difficultés majeures est là. C'est-à-dire le bonheur dans la solitude. Oui, mais au bout d'un moment, il y a quand même besoin de l'autre pour se réaliser et s'accomplir. Oui.
Ben moi, je voulais rajouter justement par rapport à ce que disait la dame aussi sur la coopération, c'est qu'on est dans une société, enfin la société française, dans laquelle la compétition est promue. Et ça, moi, je vois bien les enfants, l'éducation, c'est la base de tout. Et les enfants, on peut leur apprendre à avoir plus d'empathie, et on peut leur apprendre, plutôt que d'être compétitif, de se dire, on joue la coopération. Et ça change beaucoup de choses, on le voit bien par rapport à d'autres pays où la culture est différente, comme les pays du Nord. Donc ça, moi, je pense que vraiment, au départ, les valeurs qu'on donne aux enfants, que ce soit l'enseignement, l'éducation, ou alors les parents, elles sont primordiales.
Mais pour le coup, si je comprends bien, ça pose quand même un problème. Parce que si on a un social qui est fondé sur la compétition et la concurrence, j'ai beau élever mes enfants avec des logiques de coopération et d'entraide, quand ils vont devoir passer les concours et puis quand ils vont devoir s'intégrer, il va bien falloir qu'ils rentrent dans une logique de tuerie généralisée, c'est ce qui me vient en tête, mais c'est un peu ça, hein. C'est moi ou l'autre, hein. À un moment donné, la réussite devient une question de vie ou de mort, quoi. Donc c'est vrai que c'est d'une violence, pour le coup, il y a une violence symbolique très très forte, là. Ouais.
Oui, dans ce qui a été dit, personnellement, j'ai du mal à comprendre l'opposition qu'on fait entre développement personnel, développement individuel et, d'autre part, vie sociale, enfin, relation à l'autre, etc. Je veux dire, dans la mesure où on pose le respect de l'autre comme base de la relation, respecter l'autre permet à l'autre de son développement individuel, qui suppose, bien entendu, d'accepter et de reconnaître les différences. Et dans ce cas, il n'y a pas d'antagonisme, il me semble qu'on peut être heureux en participant chacun à une relation.
Mm-hmm. Oui.
Alors, à ce moment-là, on pourrait dire que pour tout être humain sociable, puisqu'on vit tous en société, le fait d'être en relation avec les autres est une forme de bonheur qu'il faut cultiver par rapport aussi à son égoïsme, on va dire, en prenant le mot égoïste, non pas en excluant l'autre, mais en s'accomplissant soi-même, c'est-à-dire en étant à l'écoute quand même de ses propres valeurs, de ses propres désirs, mais avec tout d'avance une limite qui est l'autre. Effectivement, après, en ce qui concerne la compétition, on peut l'envisager sous un tout autre terme, mais il est vrai aussi que il faut savoir si la compétition, la réussite, elle est pour soi ou si elle est contre l'autre. Mmh. Après, voilà, et si la notion de bonheur intègre avant tout le fait qu'on est ensemble, effectivement, il n'y a pas d'opposition entre les deux choses. Peut-être que c'est ça qu'il faut poser d'abord et qu'on ne peut pas être heureux seul. Et que du coup, ça oblige à poser des limites avant de commencer et qu'après, on peut se dire heureux en connaissant ses limites.
Mmh. Limites qui permettent à l'autre d'exister en tant que tel, hein. C'est ça ? Oui, oui. Mmh. Alors, peut-être aussi ce que l'on pourrait dire, c'est que je reviens sur cette idée de la compétition. Est-ce que la compétition pourrait pas aussi être prise pour l'émulation ? Et dans l'émulation, il y a le fait justement que nous serions des êtres naturellement paresseux. Et que si on ne nous met pas à certains moments dans une petite logique de compétition, c'est-à-dire de sélection, rien ne nous contraindrait vraiment à travailler, c'est-à-dire aussi à développer nos capacités, nos qualités, et donc aussi à nous réaliser, quoi. Il y aurait, voilà. Oui ?
Moi, ce que je veux dire, c'est que dans les classes où, par exemple, on permet aux élèves de s'entraider, il y en a qui trouvent ça très gratifiant de pouvoir aider les autres. Mmh. Et voilà, et ça change tout, parce que c'est la transmission, parce qu'on admet qu'effectivement, il y en a qui sont plus doués que d'autres pour certaines choses, et on leur permet, en fait, de valoriser leur c'est une émulation aussi, ça.
Oui.
De dire, je suis capable d'aider l'autre.
Oui, oui. Mmh. Ah, tout à fait. Et donc de devenir meilleur pour pouvoir aussi ensuite aider au mieux les autres. Ouais. Ouais, ouais. C'était un peu l'idée qu'on retrouve chez Kant, hein, quand il fait quand il émet l'idée qu'il y a avant d'avoir des devoirs envers les autres, il y a des devoirs envers soi. Et le premier devoir que j'ai envers moi-même, c'est de développer en fait toutes les potentialités qui sont les miennes. Alors on pourrait dire que c'est dans un but égoïste. C'est-à-dire, plus je développe mes potentialités, meilleur je deviens, et meilleur sera ma place au sein du corps social, et donc meilleur pourra être mon revenu, avec ce bonheur qui passera déjà par la réalisation d'un statut social et puis d'un pouvoir d'achat, d'une capacité de jouir du matériel. Et en fait, Kant ne conclut pas du tout son raisonnement de cette sorte-là. Il dit, j'ai le devoir de développer toutes les qualités que la nature m'a données, parce qu'ensuite, j'ai le devoir de les mettre au service d'autrui. C'est-à-dire, meilleur je suis, meilleur j'ai à donner à autrui, en fait. Tout ce que je fais pour moi n'est en dernière analyse qu'en vue de ce que je peux offrir d'utile au corps social.
Oui, j'entends tout ça, mais j'ai aussi l'impression que lorsqu'on développe ses possibilités, on s'aperçoit aussi qu'en transmettant, en apprenant à l'autre, eh bien, je multiplie encore mes propres possibilités.
Je continue à m'enrichir, en fait.
Oui.
Ouais. Mmh. Donc, est-ce que je ne donne pas aux autres pour mieux, pour mieux me donner à moi-même.
Moi, je dois avoir un côté diablotin, mais moi, très jeune, j'ai entraîné, j'étais sportive, j'ai entraîné, et je me suis quand même aperçue très vite que le fait d'entraîner les autres me faisait progresser. Et je pense aussi que j'aimais donner, mais je sentais quand même que moi aussi, j'en tirais parti.
Alors, on pourrait presque aller jusqu'au bout. Est-ce que tout acte que nous faisons n'est pas, au final, un acte fondamentalement égoïste. Voilà. Est-ce que tout n'est pas, au final, centré sur nous ? Oui.
Je vais essayer d'introduire deux choses. D'une part, c'est l'égalité de regard qu'on porte sur l'autre. Tout être humain a droit à mon regard. Il y a un regard égal, sans jugement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est... J'aurais tendance à rapprocher ce qu'on appelle égoïsme de l'accaparement. C'est-à-dire, j'accapare pour moi tout ce qui me convient, sans autre préoccupation.
Sans penser à autrui.
Tout à fait. C'est là que, dans mon vocabulaire personnel, c'est là que je parle d'accaparement. Alors que un développement individuel, personnel et tout, c'est un moyen, je me développe, je développe mes moyens, mais ça ne définit pas du tout dans quel but je vais utiliser ces moyens-là. Et effectivement, ça peut participer d'un échange, et je peux être très heureux de mettre mes moyens au service de l'autre.
Oui. Monsieur ?
Est-il
allumé?
C'est vert, c'est bien.
Ah voilà, oui.
J'ai écouté attentivement et en fait, je ne pense pas qu'on ait parlé de la qualité du bonheur, surtout son inscription dans le temps, dans la durée. Parce qu'il y a des bonheurs éphémères, et puis il y a des bonheurs qui peuvent durer. Et puis tous les comportements humains qu'on a décrits, je me dis aussi que une même personne, un même individu, évolue. Et qu'au départ, alors ça c'est sous ma propre responsabilité, quand on est un peu plus jeune, on a tendance peut-être plus, c'est humain, à être un peu plus sur soi-même. Et au fil des expériences de vie, on peut, plus ou moins, mais se tourner plus vers l'autre. Et là, on pourrait sentir, enfin, c'est ma propre expérience, que ça apporte aussi beaucoup. Et pour ça, il faut déjà, j'allais dire, s'aimer soi-même et se respecter et s'occuper de soi.
Voilà, avoir fait tout un travail sur soi, quoi. Ouais.
Mais en fait, tout ça, ça s'inscrit dans la durée.
Oui, c'est toute une vie d'homme, c'est tout un travail d'homme. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que on parle du bonheur, on cherche le bonheur, voilà. Mais en même temps, pourquoi cherche-t-on tant le bonheur ? Parce que il y a le malheur. Voilà. Et il me semble qu'une des premières causes de souffrance ou de malheur, c'est des fois justement la difficulté qu'on a à se supporter soi-même avec toutes les pensées qu'on peut avoir, toutes les attentes qu'on peut avoir envers autrui, toutes les désillusions qu'on peut ressentir, etc., etc. Ce qui fait qu'on est agité en permanence par tout un ensemble, j'ai envie de dire, d'éléments qui viennent perturber notre existence. Et c'est bien parce que notre existence est perturbée qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas heureux et que du coup, on recherche ce bonheur. Et du coup, les anciens avaient dit, mais le bonheur, c'est quoi ? C'est peut-être justement le fait d'arriver à arrêter en soi toutes ces perturbations. C'est ce qu'ils appelaient l'ataraxie, la fameuse tranquillité de l'âme, qui du coup se suivait souvent de la tranquillité du corps, parce que le corps, très souvent, il est le langage de tous nos conflits psychiques, quoi. Il est le lieu d'inscription psychosomatique, importante, de troubles psychosomatiques importants. Il manifeste ces troubles de façon, des fois, violente. Donc, moi, ce que je trouve intéressant avec cette idée d'ataraxie, c'est déjà d'arriver à tenter de prendre soin de soi, de maîtriser son propre intérieur. Il y a bien quelque chose qui relève là de l'ordre de l'égoïsme, parce que c'est bien moi qui le fais, c'est bien moi qui ai à prendre en charge, j'ai envie de dire, cette capacité à me penser moi-même et à me calmer moi-même. en mettant en place de façon assez simple, en fait, quand on les lit, très compliqué, je trouve, à appliquer, la fameuse distinction entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Et le bonheur, ben, c'est ce qui dépend de moi. Voilà. Il ne faut pas que j'aille chercher mon bonheur dans tout ce qui ne dépend pas de moi. Et qu'est-ce qui dépend de moi ? Eh ben, la qualité de mon jugement, le fait de pouvoir vouloir ce que je suis capable de me procurer moi-même, et de ne pas attendre d'autrui, en fait, qu'autrui produise mon bonheur. Donc, on a déjà le sentiment que, oui, le bonheur est lié à cette capacité qu'a un individu à trouver la sérénité intérieure en soi-même et par soi-même, et par, du coup, une juste distance qu'il instaure avec son environnement, c'est-à-dire ne pas trop demander à l'extérieur, ou ne pas demander à l'extérieur l'impossible, c'est-à-dire cette capacité à venir justement apaiser les troubles intérieurs qui peuvent venir m'agiter. Donc voilà, quoi. Le bonheur comme ataraxie amène l'individu à prendre soin de soi. Voilà, le bonheur, qu'est-ce que c'est ? Prendre soin de soi, déjà. Parce que nul autre ne peut le faire pour moi. Je crois que c'est ça qui est fondamental, quoi. La cause de mon bonheur ne peut pas provenir de l'extérieur. C'est pourquoi ça peut aller loin dans le raisonnement, hein. C'est-à-dire, après tout, quels que soient les événements extérieurs qui adviennent, ma citadelle intérieure me rend imperméable aux troubles extérieurs. Et donc, tant que j'arrive à tenir cette sérénité interne, je peux être heureux, emprisonné, dans des états de guerre, confronté à la perte des miens. Enfin, voilà, plus rien d'extérieur ne peut venir me frapper parce que j'ai compris que ce qui est extérieur ne dépend pas de moi. J'ai pas de prise dessus. Donc rien ne sert d'y projeter ma recherche de bonheur ou l'affirmation de mon malheur. Je suis seule cause de mon malheur. Et je suis seule cause de mon bonheur. Malheur mal pensé, bonheur justement pensé, ou pensé avec justesse. Du coup, voilà, hein, le sage, heureux dans sa citadelle intérieure. Madame ?
Je me demande si c'est pas un peu dangereux, parce que qui met la limite ? Et à la fois, ça peut être confortable et totalement égoïste, c'est-à-dire que après moi, le déluge, un petit peu, parce que moi, j'ai trouvé mon équilibre, ça ne dépend pas de moi. Qui dit que ça ne dépend pas de moi ? Et à l'inverse, ça veut dire que je ne peux pas non plus faire quoi que ce soit pour le bonheur de l'autre. C'est chacun qui est comme un atome isolé. C'est ça, le bonheur, juste être apaisé et isolé.
Alors, le bonheur, c'est d'être apaisé. Isolé, je ne sais pas. Parce qu'en même temps, ce sont des philosophies ou des gens, voilà, qui les portent, qui du coup vont accorder une très grande importance à l'amitié. Voilà. Parce que à partir du moment où je suis apaisée, dans cette tranquillité interne, je sais ce que je peux demander à l'autre et je sais ce que je ne peux pas lui demander, c'est-à-dire ce qu'il ne pourra pas m'apporter. Et donc, il y a quelque chose comme une authenticité, du coup, des relations qui peuvent s'instaurer avec une reconnaissance mutuelle, justement, de ce que je ne peux pas faire pour l'autre, mais du coup aussi de ce que l'autre ne peut pas faire pour moi. Et donc, c'est la reconnaissance de deux individualités, j'ai envie de dire, indépendantes, oui, mais matures aussi, affectivement, surtout, je pense. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est là où ils vous disent, mais en fait, la vraie relation à l'autre, elle s'instaure à ce niveau-là, parce que justement, la relation, elle est épurée de tous les fantasmes, les faux semblants, les mauvaises attentes qui peuvent venir, en règle générale, gréver les relations qu'on entretient les uns aux autres. Voilà. Donc je dirais que oui, on a affaire à des philosophies de l'indépendance, mais je dirais pas de l'isolement, au contraire. Je dirais de l'amitié, c'est la filia après. Voilà. Hein. Ce qui leur permet même de penser déjà une politique cosmopolitique. Hein, c'est-à-dire un au-delà des frontières, parce que effectivement, les individus se définissent seuls. Ils ne se définissent pas par une appartenance à un corps social. Voilà, ils se définissent dans cette capacité à se saisir eux-mêmes dans ce qui fait la valeur de l'humain, de façon générale. Mon individualité, du coup, rejoint la valeur d'humanité. Voilà. Donc voilà, il y a une vision assez cosmopolitique, ouais, dans ces philosophies-là. Ce qui me fait dire peut-être que ça serait peut-être bien de revenir sur les termes d'égoïsme et d'altruisme. Voilà. Parce qu'en fait, ils sont très connotés, madame.
En fait, vous avez presque rebondi sur ce que je voulais dire. Peut-on imaginer un monde où les individus auraient atteint un niveau de sérénité pérenne? Et dans ce cas-là, y aurait-il des interactions possibles? Je rebondis sur la notion de possible.
On frôle toujours.
Qu'est-ce qui sera possible dans une société, enfin une société, on ne pourra pas parler de société dans ce cas-là. On parle d'individus qui ont chacun sa propre sérénité pérenne, individuelle. Et qu'est-ce que l'on peut poser comme possible après pour mettre, pour orchestrer un petit peu tous ces solistes?
Alors, l'idée, ça serait de dire qu'il faudrait de la dépendance pour qu'il y ait du lien social quand même. Une indépendance totale, en fait, romprait la communauté des hommes. C'est ça l'idée?
En fait, pour moi, l'idée, c'était d'aller si loin, est-ce que c'était vraiment possible?
Accéder à une telle sérénité.
Accéder à une sérénité vraiment parfaite. Est-ce que ensuite ça permet une interaction? Est-ce que ça permet une communication? Une communication vraie. Ça ne serait pas une communication, si on parle mathématiques, des communications parallèles.
Oui.
Au sens mathématique du terme,
oui.
Parallèle. Et comment rendre les choses ensuite interactives?
Oui.
Oui. Il me semble que l'enfermement sur soi, qui est plus ou moins décrit là, pose la question de peut-on se passer du regard de l'autre? Et est-ce que ce n'est pas l'autre qui, par son interaction, nous valorise? Et à ce moment-là, je veux dire, cet enfermement sur soi me prive de ça. Et peut-on se passer du regard de l'autre?
Ça me fait penser au Bouddha. En fait, le Bouddha qui est dans sa méditation, voilà. Et...
Oui, mais alors si c'est quelqu'un qui est regardé par l'autre...
Non, voilà, justement, il ne l'est pas, il n'en a plus besoin.
Il est seul.
Le Bouddha est par définition seul. Ouais. Oui, madame.
Le Bouddha, moi je pense à une... En vous écoutant, j'ai eu une image, c'est une communauté de renonçants finalement.
Oui.
Parce que la plénitude, la taravisi, etc., finalement, ceux qui pouvaient l'atteindre ou peuvent l'atteindre, ce sont les renonçants. Alors souhaitons-nous être tous des renonçants pour atteindre ce fameux bonheur, cette fameuse plénitude? Voilà. On dit ça un petit peu en termes de boutade, parce que au fond, notre réflexion nous conduit très loin, puisque elle nous conduit pratiquement à renoncer à la société, si je comprends bien. Et peut-être, au fond, il me semble qu'au départ, nous n'avons pas très bien posé ni la question du bonheur, ni la question de l'égoïsme. Alors, il me semble qu'il y a bien une question d'ego, mais est-ce que c'est d'égoïsme? Je n'en sais rien, moi. Et qui le sait? Quant au bonheur, est-ce que tout compte fait, ça n'est pas une utopie? Est-ce que ce n'est pas quelque chose après quoi nous courons et puis qui fuit un peu devant nous, quelles que soient finalement les situations, même si nous éprouvons de temps à autre? Mais vouloir vivre alors que nous sommes définis par l'anthropologie comme des individus grégaires,
en dehors de tout groupe, ça me paraît un peu étonnant. Quoi. Voilà.
Mmh. Oui, oui. Alors, c'est vrai que, du coup, voilà, qu'est-ce que l'égoïsme ? Effectivement, si l'égoïsme est à penser comme ce pur intérêt à soi et qui génère du coup un repli sur soi et qui nous isole complètement des autres, ça pose problème dans la relation que j'entretiens avec autrui. Voilà. Et effectivement, est-ce qu'il y a encore besoin d'une relation avec autrui ? Rien n'est moins sûr. Ça, c'est... Et alors, rien n'est moins sûr, j'en sais rien. Je vais rester dans ma logique bouddhiste. Je la trouve passionnante. Parce que le Bouddha, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il faut qu'on s'éveille donc à cet état d'ataraxie, de renoncement total, hein, parce qu'en fait, c'est ça. Et ça va nous permettre d'accéder au soi avec un S majuscule. Et le soi, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la dissolution de l'individualité dans le nirvana. C'est-à-dire, les individus, du coup, ils sont même plus dans une communication parallèle, parce que de plusieurs, nous ne devenons plus qu'un. Il n'y a plus le problème de l'individu en tant que tel, de la personnalité que je suis. Et le nirvana, c'est le bonheur absolu, puisqu'il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien où il y a tout. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais voilà. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus de mouvement. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus de communication. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus de délimitation. Par contre, je me dis, si, sans aller donc jusque-là, parce que du coup, ça pose peut-être la possibilité d'une élévation spirituelle, mais ça ne pose pas le problème du quotidien et des êtres que nous sommes ici et maintenant, incorporés, individualisés, spécifiques. C'est vrai que l'égoïsme n'est peut-être pas à concevoir, enfin, est peut-être distinct de la notion d'égoïté. Moi, je mettrais en place une distinction. Si par égoïsme on entend égoïté, alors il faudrait admettre qu'il n'y a rien de péjoratif ou il n'y a rien d'immoral dans cet égoïsme ou dans cette égoïté. Au sens où, et là je me réfère à Kropotkine, anarchiste russe, aux théories anarchistes en fait, hein, voilà, qui nous dit, mais est-ce que vous pensez réellement que pour entrer en relation avec l'autre, que pour être bien avec l'autre, il ne faut pas justement d'abord prendre soin de soi. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a réellement opposition entre ce que lui va nommer égoïsme, très clairement, égoïsme et altruisme ? Est-ce que cette opposition qu'on met en place entre les deux termes se tient vraiment ? Et toute sa démonstration, c'est de dire, mais plus je prends soin de moi, c'est-à-dire mieux je suis moi-même, mais mieux je suis avec les gens qui m'entourent. C'est-à-dire, plus je me suis développée moi-même, plus j'ai satisfait tous les goûts qui sont les miens. Et qu'est-ce que je fais quand je satisfais les goûts qui sont les miens ? Ben, je transmets aux autres. Et en même temps que je transmets aux autres, ben, la transmission des autres, ben, ça me renvoie comme un boomerang, en fait. Tout ce que j'apporte aux autres m'est de nouveau redonné pour que je puisse de nouveau mieux le redonner. J'ai envie de dire, c'est véritablement une logique de cercle vertueux. Mais si je vais mal, si je prends pas soin de moi, si je ne fais pas ce qui me fait envie, si je ne me repose pas quand j'ai besoin de me reposer, si je reste dans une logique de frustration, mais nécessairement les gens qui m'entourent vont le subir. C'est-à-dire, je vais être aigrie, je vais être agressive. Si en prime, il faut que je me sacrifie pour les autres, alors là, je ne vous le dis pas, c'est la fin des cacahuètes, mais je vais le faire quand même, parce que c'est mon devoir. Enfin, il y a quelque chose qui devient lourd, qui devient pesant. Et pour le coup, effectivement, le bonheur n'est pas de ce monde. Hein. C'est quand même ce que nous dit Kant. Hein. Travaillez à mériter votre bonheur, sacrifiez-vous bien au service des autres, mais le bonheur, ne vous y trompez pas, ça sera après le jugement dernier, et encore si vous y avez droit. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Donc c'est sûr qu'on sent quand même le côté, du coup, voilà,
il faut que j'y aille à mon bonheur, surtout pas d'égoïsme, que de l'altruisme, c'est l'autre qui compte et pas moi. Mais au final, justement, les relations humaines, ça fonctionne peut-être pas comme ça. C'est-à-dire, quand l'autre me regarde, qu'est-ce qu'il me donne ? Mais il me donne mon propre être. C'est-à-dire, c'est parce qu'il me regarde qu'il me fait exister. Et c'est bien ça, et ça, c'est quand même profondément égoïste, si on veut continuer à utiliser ces termes. C'est-à-dire, j'adviens à mon ego, j'adviens à moi, que par l'intermédiaire de l'autre. L'inverse est vrai, la réciproque est vraie. C'est-à-dire, c'est parce que moi, je regarde l'autre, que je le fais advenir aussi, en tant qu'autre. Donc, du coup, entre le don que je fais à l'autre, de son propre être, mais le don qu'il me fait à moi de mon propre être, on voit bien qu'entre égoïsme et altruisme, les choses sont peut-être pas aussi distinctes qu'on pourrait le penser. Voilà. Ouais. Madame.
Je vais encore revenir sur le gâteau de la dernière fois, en fait, aussi. Mm. Si c'est aussi fonction de mes besoins. Mm. Parce que si on partage un gâteau et puis que j'ai très très faim et puis que la part elle est toute petite, je vais quand même être tentée peut-être de prendre les parts des autres et voilà.
Oui.
Donc il y a quand même y a une notion de besoin repu, quoi.
Oui. De satisfaction des besoins premiers.
Encore une fois, de manière très pragmatique, moi pour moi l'égoïsme. En fait, c'est très, très matériel. Quand on dit d'un enfant, il est égoïste, c'est qu'il a un paquet de bonbons et puis en douce, il va manger tous les bonbons sans en avoir donné un seul à ses petits copains. Il y a un côté comme ça. L'égoïsme, je le définis en fait comme ça. En fait. Mais j'ai quelque chose et je ne le partage pas. En fait.
Ouais, mais
je garde tout pour moi et ouais. Je mange tout ou j'en profite.
Et j'en jouis bien.
Voilà, mais à un moment donné, ça dépend de la réaction des autres à côté de moi, parce qu'à la limite, si je mange tout et puis qu'ils disent rien, pas très grave. Mais à un moment, s'il y en a un qui commence à me taper dessus ou alors à pleurer, ben là, c'est quand même embêtant. Là. Est-ce que je peux être heureux si à un moment donné, je me prends un coup de poing, un coup de pied, ou si à un moment, je vois quand même un autre à côté de moi qui se met à pleurer? Je pense que ma sensibilité, ou à moins d'être effectivement dans la méditation.
Enfin, je sais pas, on est dans le paquet de bonbons là.
Ouais, on est dans le paquet de bonbons, donc punaise quand même, il y a un sacré enjeu derrière. Et puis on est des êtres sensibles, quoi. Je pense ouais. pas qu'on peut pas être heureux quand il y a des gens malheureux. Je pense pas.
Si nos questions sont là ce soir avec tout ça.
Ben, on se cache parce qu'on est dans le déni et puis à un moment, sans parler de guerre, moi je vais à Paris souvent, à un moment donné, et puis ça va même à Orléans, il y a des gens qui dorment dehors dans le froid. Alors, moi je me protège à un moment parce que si je regarde ça, je me jette dans la Seine ou dans la Loire. Donc à un moment, on est quand même tous à un moment à fermer les yeux et de se recentrer sur soi pour ne pas voir le malheur des autres.
Ce serait ça l'égoïsme, le déni ? Moi, je pense qu'on peut être pas du tout dans le déni, avoir conscience de ce qui se passe. Merci. Avoir conscience de ce qui se passe, ne pas être dans le déni. Le déni, ce serait ça, être égoïste. C'est-à-dire que c'est toute la frontière. Moi, en ce moment, par exemple, c'est vrai que je me dis quelquefois, je ressens une culpabilité, par exemple, à venir là, discuter. J'avais envie de poser un sujet ce soir, mais je ne l'ai pas fait. À quoi sert encore la philosophie, mais depuis la nuit des temps, heureusement, la philosophie a survécu à toutes les catastrophes. Mais je pense que le déni, ça serait ça, être égoïste, alors qu'on peut être heureux, même si d'autres gens sont malheureux. On fait ça tout le temps, à tour de rôle.
Oui.
Moi, je trouve que ça, on peut penser aussi au sujet qu'on a traité la fois d'avant. Sur sommes-nous ou serons-nous gouvernés par nos émotions ? Voilà, parce que ça se rejoint quand même. Et effectivement, je pense que il y a des émotions, bon, il faut quelquefois les contrôler, mais dans un certain cas, elles nous amènent à être effectivement moins égoïstes. Donc, c'est vrai pour moi, c'est complètement en lien avec le sujet du mois d'avant.
Voilà. Oui, je... Moi, j'aimerais bien revenir sur ce paquet de bonbons, quand même. Parce que... Oui.
Le paquet de bonbons, c'est le domaine du superflu.
Oui.
Après, on peut se positionner, quand, comme ça a déjà été dit, quand tous les besoins fondamentaux ont été satisfaits. Et puis, quand, au tout début, quand vous parliez du respect de l'autre, on sait très bien, bon, aujourd'hui c'est la journée des droits des femmes, on sait très bien qu'il y a plein, même dans notre société, il y a plein d'espaces où il n'y a pas le respect des autres. Alors, voilà.
Il y a une grande violence.
Oui.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Là, il me semble que le propre de la violence, c'est justement de couper court au respect. Si, à partir du moment où il y a du respect, je perçois souvent et je définis souvent le respect justement comme cette mise à distance, la violence n'est pas possible puisque l'autre n'est pas atteignable, l'autre n'est pas touchable. Donc, encore une fois, physiquement et psychiquement. Donc, dès que l'autre est touchable, c'est que cette distance qui est la matrice même du respect a disparu, est rompue, quoi. Mais oui, sur alors le paquet de bonbons, pour moi, c'est la métaphore de la satisfaction des besoins, voilà, des besoins fondamentaux. Et effectivement, l'enfant, il mange ses bonbons et puis surtout, moi je prendrais un autre exemple, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui vient pour en prendre un, des bonbons, c'est lui qui met le coup de, le coup de poing. Et l'idée, c'est quoi? C'est peut-être justement d'assurer sa survie. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui fait qu'on est des êtres qui pensons le rapport au monde en termes d'appropriation, et l'appropriation en vue de satisfaire ses besoins fondamentaux. Mais moi, ce qui m'intéresse, par exemple, dans la pyramide de Maslow, c'est que cette pyramide, elle nous dit que la base ou le fondement, ce sont tous les biens matériels, effectivement, et tout ce que nous devons posséder pour pouvoir nous épanouir, j'ai envie de dire physiquement nous-mêmes. Mais plus nous montons dans la logique pyramidale, plus en fait ce qui apparaît, une fois que ces besoins ont été satisfaits, ce sont les besoins sociaux. Et du coup, si je reste avec mon exemple de l'enfant, l'enfant, il a mangé tous ses bonbons. Il est content, voilà. Ses besoins fondamentaux sont satisfaits. Il peut en manger deux, il peut en manger trois des paquets de bonbons. Mais au bout d'un moment, ce dont il va se rendre compte, c'est qu'il y a les autres autour de lui. Mais du coup, parce qu'il a mangé tous ses bonbons, ben, il est seul. Il n'a pas créé de lien. Il ne parle pas, à la limite même, il s'est isolé. Et donc, tout d'un coup, ce qu'il va ressentir, c'est le rejet de la communauté. Et il me semble que le bonheur, il se fait avec la satisfaction des besoins fondamentaux, mais il se fait aussi et nécessairement parce que nous sommes humains. Parce que nous sommes humains, avec la satisfaction qu'on peut trouver dans le lien social qu'on a avec les autres. C'est là où on a besoin d'être reconnu. Il y a besoin de cette reconnaissance, il y a besoin de ces liens d'amitié, il y a besoin de cette croyance dans le fait que si j'ai besoin, ben, je trouverai de l'aide. Voilà, donc cette confiance, du coup, que je peux avoir envers les autres, qui vont donner naissance à toutes les logiques de coopération, de mutualisation ou autres, par lesquelles seules peuvent se constituer, en fait, un monde social, qui vont créer les affinités électives, ce qu'on va appeler les amis, les proches, qui vont créer des liens ou délier, du reste, les liens familiaux. Mais du coup, oui, c'est-à-dire... Est-ce que l'humain peut fondamentalement se penser son bonheur en dehors d'un rapport à autrui? Je pense qu'il y a là quelque chose qui oblitère la nature qui est la nôtre. C'est-à-dire, pour exister, j'ai besoin de l'autre. Voilà. Et donc, j'ai besoin de construire ma relation à l'autre. Et la difficulté, c'est que la construction de cette relation à l'autre, cette capacité à être soi et donc... à apporter aux autres l'être que nous sommes, je pense qu'elle n'est pas donnée. Et donc, l'éducation est absolument fondamentale en vue de nous apprendre à reconnaître l'autre en tant qu'autre. Parce qu'entre autrui et puis une chaise ou un paquet de bonbons, il n'y a pas souvent beaucoup de différence, quoi. C'est-à-dire, le paquet de bonbons, il me nourrit, et puis autrui, il peut aussi me donner sa part de gâteau, et s'il ne veut pas me donner sa part de gâteau, de même que je peux prendre mon bonbon, de même, je peux prendre la part de gâteau, et avec force, s'il le faut. Pourquoi ? Parce qu'on ne regarde pas toujours autrui. C'est pas parce que je le vois que je le regarde. Voilà. Et donc, autrui peut justement être perçu comme une simple chose à mon service. Chose que je vais pouvoir accaparer, chose que je vais pouvoir dominer, chose que je vais pouvoir aller violenter pour le bon plaisir qui est le mien. Le seul problème, c'est est-ce que tout ça, ça conduit au bonheur ? Alors, on peut le croire dans un premier temps. Ça permet d'assouvir son sentiment de toute puissance, ses envies premières ou pulsionnelles qui nous sont données. Mais au final, si le bonheur est à penser dans la durée, les logiques conflictuelles, les logiques de récrimination ne sont pas nécessairement les meilleures pour arriver quand même à un bonheur qui, malgré tout, est sérénité. Peut-être pas seul, mais en tout cas à plusieurs, quoi. D'où la difficulté des événements traumatiques. Je pense que, voilà, quand tout d'un coup l'histoire s'emballe, quand tout d'un coup le monde s'emballe, du coup, ce qui s'emballe avec le monde, c'est aussi notre possibilité de bonheur, quoi. D'abord parce qu'on craint pour soi, si on veut revenir à une pure logique égoïste, et puis ensuite parce qu'effectivement, comment être heureux quand d'autres souffrent le martyr. Hein, et la difficulté, c'est peut-être pas simplement de continuer à poursuivre sa vie quand d'autres souffrent, c'est aussi le problème de l'impuissance. C'est-à-dire, tout d'un coup, on se rend compte qu'on voudrait bien produire le bonheur chez l'autre, mais... À un moment donné, des fois, on est confronté à une impuissance qui peut être physique, qui peut être politique, qui peut être... voilà. Et du coup, comment surmonter son impuissance ? Et peut-on être heureux ? C'est-à-dire, j'ai envie de dire aussi, à quoi ça sert de se flageller soi-même quand les autres souffrent ? Est-ce que ça va les empêcher de souffrir ? C'est ça le problème de l'impuissance. C'est-à-dire, dès que j'ai la puissance, je peux agir pour l'autre. Quand je ne l'ai plus, qu'est-ce que je fais ? Je désespère ou je continue à vivre ? Vraie question, quoi.
Oui, il me semble, mais c'est peut-être que ce n'est peut-être que très personnel, que notre cheminement, là, nous amène à une conception du bonheur qui n'est plus quelque chose d'individuel, mais qui est une construction partagée entre des personnes. Et donc qui peut être sur le moment, dans des circonstances données, qui peut être dans la durée, parce que c'est une relation longue et qui construit son propre, mais que le sentiment de bonheur, me semble-t-il, vient du partage de cette construction. Mais seul, je ne peux pas. C'est-à-dire, cette construction, elle est nécessairement... Je ne peux pas la faire seul.
Mais ce qui est intéressant quand même, c'est toute la littérature, j'ai envie de dire, concentrationnaire, voilà, ou la littérature d'enfermement. J'en prendrai qu'une, hein, le Comte de Monte Cristo. Enfin, dans le Comte de Monte Cristo, qu'est-ce que démontre Alexandre Dumas quand Dantès est enfermé au fort Sainte-Marguerite, si mes souvenirs sont exacts. C'est justement le fait que si vous enfermez un homme seul, il a beau avoir été le plus érudit des hommes, en fait, on devient fou, quoi. La solitude en tant que telle, voilà. Enfin, la solitude, le terme est impropre, mais l'isolement, quoi. Voilà, le caractère d'isolement, ce que Hannah Arendt va nommer la désolation même. Hein, vivre dans ce caractère de désolation, c'est-à-dire être coupé de tout lien, c'est véritablement la mort de l'humanité en l'individu, quoi. Voilà.
Pour moi, dans mes réflexions, établir la différence entre les satisfactions... La satisfaction, pour moi, peut être quelque chose d'ordre individuel. Et ce sentiment de bonheur, alors je préfère l'expression au mousseul, hein. Ce sentiment de bonheur, pour moi, non, il est le résultat d'une construction qui est partagée. Autrement dit, je ne peux pas éprouver ce sentiment de bonheur en étant isolé.
Ce qui pourrait nous faire dire que le bonheur est fondamentalement humain. Fruit d'une construction humaine, effectivement, oui. Satisfaction qui relèverait de l'individu et bonheur de la collectivité humaine, construite humainement, oui.
Je pense que quand on regarde ce qui se passe avec les bébés, quand on les touche pas, quand on fait en sorte qu'ils aient aucune relation, ils vivent pas. Donc c'est vraiment très profond, ce besoin-là.
Mais alors du coup, j'aimerais aussi, si on part là-dessus, j'aimerais aussi revenir sur ce que ça implique pour l'individu. Parce que si le bonheur se construit dans cette relation de ce que j'aimerais appeler une bonne communication avec autrui, expurger de toutes les relations toxiques qu'on pourrait introduire dans nos rapports aux autres, ça implique quand même de repenser le rapport peut-être à nos satisfactions quand même personnelles. C'est-à-dire, le bonheur collectif nous éduque à la manière par laquelle on peut jouir même de nos propres satisfactions purement individuelles ou personnelles, quoi. Même après cela, être heureux seul, une satisfaction personnelle, un accomplissement personnel, une réalisation personnelle, un développement personnel. Je pense que l'air de rien, c'est pas si personnel que ça. C'est personnel au sein de la manière par laquelle je veux vivre mes relations avec autrui. Voilà. Et donc, c'est d'abord le mode relationnel à autrui que je veux mettre en place qui me demande à être interrogé, pour ensuite voir comment je veux me développer, moi, pour pouvoir rentrer, en fait, dans cette logique relationnelle que j'envisage. Oui.
Ce que j'entends là-dedans, c'est qu'en fait, effectivement, c'est assez beau, je partage assez, qu'on a besoin des autres pour être heureux, etc. Mais parfois, l'enfer, c'est les autres. Hein.
Oui.
Voilà. Est-ce qu'on ne serait pas plus heureux, peut-être, certaines personnes, je pense au berger qui est avec ses moutons en pleine montagne, qui est très seul, mais voilà, il y en a qui sont heureux comme ça. Je sais pas, là, j'ai l'impression c'est tout beau, ça. Je sais pas, des fois, l'enfer, c'est les autres, hein, l'autre.
Et c'est bien pour ça que j'ai dit enlever de toute toxine.
D'accord, ah ouais, d'accord.
Ah oui.
Madame ?
La question exactement, c'est possible de la répéter.
Peut-on vivre heureux sans être égoïste ?
Parce qu'en fait, là, on parle de lien depuis tout à l'heure. On parle, là, il y a une dame qui a parlé du bébé. En fait, les bébés qui ne sont pas regardés, touchés. En fait, ça amène aussi le fait que tout individu, même si il n'est pas, proprement dit dans la parole, le lien, il se fait par le regard. Il ne se fait pas que par la parole. Là, on parle. Moi, j'échange avec vous. Mais on se rend bien compte que, par exemple, vous prenez les transports en commun. Vous croisez des regards, vous croisez des gens que vous ne verrez plus jamais. Vous allez les voir à un moment donné, ces regards vont se connecter, en fait. Et en fait, des fois, ça c'est souvent aussi dans la... Si vous avez regardé beaucoup de films de la Nouvelle Vague, ça parle aussi de ça. C'est-à-dire que ces personnes qui se rencontrent à un moment donné... Ils vont avoir quelque chose d'intense. Il va se passer un événement intense. Et après, ils vont se perdre de vue. Ils ne vont plus jamais se revoir.
Et en fait, le lien qui a été créé, c'est comme si ce lien, il perdurait dans le temps. Et le souvenir, en fait, du lien crée le bonheur, en fait. Pas besoin de forcément être toujours en quête permanente d'un bonheur qui n'existe pas, en fait. Parce qu'en réalité, c'est juste le lien, à un moment donné, qui a fait que ça a animé ou amené des choses. J'ai du mal avec le micro.
Non. Mais est-ce que ça voudrait dire que le bonheur est nostalgie ?
Ben, ça peut l'être. Enfin, moi, je le perçois un peu comme ça aussi, le bonheur. C'est-à-dire que le bonheur, il peut être aussi un moment T très, très, très fort. Et en fait, un peu comme l'événement que vous avez eu le plus beau de votre vie et vous voulez garder rien que pour vous, quoi. Donc, un peu un moment égoïste, rien que pour vous, qui peut à tout moment être là, ressurgir quand tout va mal, quand ça ne va plus, hop, il revient et pouf, ça redémarre. Et ça permet aussi, moi je pense beaucoup aussi à, par rapport au bonheur, c'est de la consolation aussi.
Ça
amène la consolation.
Le souvenir du bonheur amène la consolation. Ouais. Mmh. Oui.
Là, on parle du souvenir qui nous apporte du bonheur, mais je trouve aussi que l'anticipation d'un événement, par exemple, quand on sait que, je parle dans mon cas de l'UCN, mais quand on sait qu'on va avoir une grosse soirée, par exemple, ou quelque chose comme ça, qu'on attend depuis des mois une soirée qui est préparée à l'avance, et bah, le fait de s'imaginer dans cette soirée avec les gens qu'on va croiser, etc., bah, ça apporte une certaine satisfaction, un certain bonheur, et parfois même, par exemple, Noël, les fêtes comme ça, on sait qu'on va retrouver nos proches, etc., et bah, on ne l'a pas encore vécu, mais c'est pas si c'est de l'anticipation, mais c'est plus penser, voilà, s'imaginer dans cette situation, provoque une satisfaction, un certain bonheur, sans forcément avoir vécu la chose.
Tout à fait. Le bonheur devient désir, là. Voilà, il devient attente, il devient désir, il devient... Nous n'avons jamais été aussi heureux qu'avant d'être heureux. Hein ? C'est vrai.
Alors, l'exemple de Noël permet de faire le lien avec ce qui a déjà été abordé, c'est-à-dire qu'on peut être très heureux quand d'autres, et on le sait, souffrent. Parce que, par exemple, à Noël... On sait qu'il y a un taux de suicide le plus important, en particulier, par exemple, dans les maisons d'arrêt, les prisons. Et bien qu'on sache cela, si on a un beau projet familial ou amical, on va quand même s'éclater, alors que d'autres, c'est un autre éclatement.
Mais c'est vrai, on dit aussi, enfin, depuis le début, on part du principe que on est fait pour le bonheur. C'est-à-dire qu'on serait capable de se donner à soi-même son propre bonheur à partir du moment où on sait où le trouver, où on en a les possibilités politiques, économiques, sociales. Là encore une fois, le respect par exemple des libertés individuelles montre à quel point le politique est important dans cette recherche et peut-être atteinte du bonheur. Mais est-ce qu'on pourrait pas aussi penser que nous sommes aussi très très bons à nous saborder dans notre rapport au bonheur, et là seul. Voilà, on n'a pas besoin d'autrui pour se saborder après tout. Le bonheur, il arrive, il peut être très sympathique, très belle relation avec autrui, et je vais la saborder. Voilà. Comme s'il y avait quelque chose peut-être de trop beau aussi dans les relations qu'on peut mettre en place avec autrui, hein. Cette sagesse à laquelle on pourrait advenir, cette capacité à être heureux. C'est-à-dire, des fois, je me dis, mais à quel point il faut nous rappeler à tous le droit qu'on a d'être heureux, le droit qu'on peut avoir de s'apprécier sans se juger, le droit qu'on peut avoir aussi à pouvoir profiter de ce qu'on a à profiter, mais peut-être pas avec tout le monde, peut-être aussi avec ses proches, peut-être aussi avec un certain nombre de personnes. C'est peut-être ça aussi la notion de justice, parce que effectivement, quand je vois les autres souffrir, je serais capable de tout donner, même ma chemise. Question, est-ce qu'il faut la donner?
Moi, pour moi, c'est une vraie question, ça. Vous voyez ?
C'est la morale.
C'est la morale, c'est la justice aussi, peut-être. Ouais.
La culpabilité, la culpabilité et la morale, et toute la construction judéo-chrétienne aussi. Mmh. C'est-à-dire que le bonheur, c'est pas ici, c'est après. Mmh. Et donc, quand on a du bonheur, on peut avoir de la culpabilité, de l'angoisse, parce que forcément, ça va pas durer, parce que c'est trop beau. Et ça, c'est une connotation morale. Et dans le fait de s'occuper de soi-même, de prendre soin de soi, il y a ça aussi. Parce que sinon, on est complètement perméable, à, sans faire exprès, sans faire attention à ce jugement qu'on a sur soi-même, et se dire c'est trop et j'y ai pas droit, et enfin ça c'est toute une connotation morale, je pense, qui interfère sans arrêt le bonheur dans l'absolu. On n'ose pas l'imaginer, y croire, et quand on l'a, on voit plus facilement ceux qui n'ont rien à ce moment-là, et on a peut s'aborder effectivement les choses, parce que je crois qu'il y a une culpabilité, comme si le bonheur de toute façon c'est dangereux aussi, parce que c'est pas possible.
On se brûle les ailes auprès du bonheur, hein. Il y aurait presque cette idée-là, oui. Donc avant qu'il s'en aille, autant le faire partir d'abord, quoi. Ouais, c'est mieux. Au moins, c'est moi qui maîtrise, quoi. Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'on ne maîtrise rien, mais en tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Ouais. Et donc, du coup, là aussi, la relation à autrui, on disait l'enfer, c'est les autres, mais des fois, les autres deviennent l'enfer, parce qu'en fait, c'est moi-même qui génère cet enfer dans ma relation à autrui. Aimer n'est pas simple.
Oui, j'aimerais introduire la notion un peu de droit à l'oubli, que je rapprocherais de ce que tu disais tout à l'heure, le droit au bonheur. Et je le rapprocherais aussi de ce que disait monsieur tout à l'heure, le temps où on peut être heureux. Par exemple, il nous est tous arrivé parce qu'on a bien réussi dans notre travail, ou d'avoir une promotion, ou parce qu'on sort du travail, il fait beau, ou nos amours vont bien, d'être profondément heureux. Et est-ce qu'on peut dire pour autant, profondément heureux pendant un certain temps, est-ce qu'on peut dire pour autant qu'on est égoïste ? Parce que peut-être que par ailleurs, d'ailleurs, on est très altruiste, on amène beaucoup de choses, pourquoi pas dans des associations ou ailleurs. Donc ça rejoint pour moi un petit peu cette temporalité, où on a bien droit quelques instants, peut-être parce qu'on le mérite ou parce que c'est fondé, d'être heureux aussi, sans être égoïste.
Vous avez quand même employé le mot mérite. Il faut mériter quand même.
Oui, mais je l'ai poursuivi. Alors, j'ai poursuivi parce que je m'en suis rendu compte moi-même. Je vous suis avec. Parce que juste après, j'ai dit, ou peut-être parce que c'est fondé, ce qui est un peu différent de lui. Bon, voilà, donc je vous suis bien que. Mais c'est pas forcément. C'est une des raisons où on peut être heureux, mais c'est pas. Il peut y en avoir d'autres.
Il me semble que ce qui est traité là, c'est l'enfermement sur son propre bonheur. Or, c'est pas du tout une obligation. Je peux être heureux, mais rester conscient de ce qui se passe autour de moi, d'essayer de comprendre si je peux avoir une action ou pas. Parce qu'il y a des situations où je peux peut-être agir, coopérer, etc. Et puis d'autres qui sont totalement indépendantes de mes possibilités, de ma volonté. Mais en tout cas, je peux être heureux sans m'enfermer.
Oui.
Et à ce moment-là, je vois pas de source de culpabilité.
Oui. Peut-être pour penser la culpabilité, j'irais me référer aux Grecs et à leur notion d'hubris. Ça, je trouvais ça fabuleux, moi. C'est-à-dire l'idée selon laquelle toute réussite, en fait, que l'on peut avoir, donc tout bonheur, si on veut formuler les choses dans ces termes, nous vient des dieux. Donc, à partir de ce moment-là, il faut toujours savoir être reconnaissant, toujours savoir reconnaître son assujettissement au dieu ou aux déesses. Et si jamais un jour vous venez à l'oublier, alors là, le retour de bâton va être terrible, quoi. Parce que là, les dieux et les déesses ne vont pas vous louper. Et c'est là où, vraiment, la misère va venir frapper à votre porte. Le courroux, la colère, voilà, des dieux ou des déesses, je pense à Ajax, moi, essentiellement, va être terrible. C'est Athéna qui devient folle furieuse du désintérêt tout d'un coup que Ajax peut avoir pour elle. Et donc elle le condamne à passer pour un fou, quoi. Voilà, donc elle lui fait perdre tout son honneur, ce qui est, enfin, il n'y a pas pire pour un grec, voilà. Et donc, je me dis, même indépendamment de la logique judéo-chrétienne de la culpabilité, on voit déjà comment même chez les Grecs, où il y a cette affirmation quand même d'individualité forte, etc., il y a cette ambivalence vis-à-vis du bonheur. Et je pense que l'ambivalence, elle tourne autour de cette difficulté à tenir ensemble l'égoïsme et l'altruisme. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi l'hubris ? C'est l'égoïsme. C'est le fait de penser à soi, de pouvoir s'affirmer soi-même en tant que soi, indépendamment des autres, et là, indépendamment des dieux et des déesses. Et donc, c'est condamné, c'est la malédiction. Et il me semble qu'il y a quelque chose dans cette leçon des Grecs qui nous fait dire, mais attention, l'individu ne peut pas se tenir debout seul. Et c'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un individu ? C'est cette capacité qu'on a à être constamment ouvert aux autres. Voilà. Et en même temps, et c'est peut-être là-dessus que je conclurai, c'est comment lier égoïsme et altruisme. Il me semble que peut-être la meilleure image, c'est celle de la corne d'abondance. Voilà. C'est-à-dire, c'est la corne d'abondance, c'est cette corne qui est capable de donner aux autres, de donner, mais parce que justement, elle-même, elle l'a constamment. Et si ce que l'on nomme, je mettrais entre guillemets l'égoïsme, c'est cette capacité qu'on a à se nourrir soi-même et à se remplir soi-même, ça n'a de sens et de valeur que parce que justement, tout ce que j'acquiers pour moi et qui me fait être moi et qui me fait être bien en étant moi, ça me permet de le déverser hors de moi. Et c'est là où il n'y a pas d'enfermement. La corne d'abondance, elle n'est jamais fermée. Elle ne peut pas se fermer. À la limite, j'étoufferais si elle se fermait, la corne d'abondance. Le sens de ce que je possède ou le sens de ce que je suis, c'est un sens qui est toujours ouvert vers autrui. Matériellement, je pense à la notion d'héritage, c'est-à-dire ce que j'ai, ben, à un moment donné, j'aime le transmettre, et j'aime le transmettre à des gens que j'aime, ou à ceux à qui je sais qu'ils sauront en faire bon usage, ou bien l'entretenir. Mais aussi ce que je suis moi, ça n'a d'intérêt qu'à partir du moment où il y a transmission envers les plus jeunes, envers les nouvelles générations. Enfin, nous sommes que des témoins dans l'histoire de l'humanité, nous avons reçu des autres. Nous nous sommes formés nous-mêmes et nous ne sommes là que pour transmettre aux autres. C'est peut-être du coup le bonheur. Qu'est-ce que c'est ? J'ai envie de dire, ça serait ce sens de l'existence qui me fait trouver ma place au sein d'une communauté dans laquelle je ne m'intègre que parce que je suis d'une certaine manière utile. J'ai cette utilité de pouvoir offrir aux autres ce dont les autres manquent. Voilà. Merci beaucoup.
Alors ce soir, comme nous avons le droit d'enlever nos masques, puisque nous sommes dans un lieu où on a contrôlé le pass sanitaire, on va pouvoir prendre un pot tous ensemble. Mais on va quand même prendre quelques précautions. Donc ne vous agglutinez pas au bar pour éviter d'être tous trop rassemblés. Comme vous voyez, il y a des tables dans la pièce, donc on va amener les boissons et les choses à picorer sur les différentes tables. Et auparavant, si vous pouvez nous donner un petit coup de main pour ranger les sièges, ce sera très apprécié. Merci.